Salut, bienvenue à Radio Culture d'Empathie. Moi, c'est Colin Perrault. J'offre ce podcast pour contribuer à la création d'une culture d'empathie. Dans ce podcast que je vais faire environ une fois par mois, je vais parler à toutes sortes de personnes, à des gens d'un peu partout. Mais ce que ces gens ont en commun, c'est que ce sont des gens qui m'ont touché, qui m'ont inspiré dans ma vie, dans la création d'une culture d'empathie, une culture de connexion, une culture de non-violence, une culture créative, où que toute forme de vie est considérée également. On est à un moment, en ce moment, dans notre civilisation, où on se pose beaucoup de questions sur l'égalité entre les personnes, la justice sociale, puis aussi par rapport au changement climatique. Dans ce podcast, je veux qu'on s'inspire ensemble, qu'on se transmette des expériences, des connaissances. Et je vous invite à partager ces podcasts autour de vous. Je vous invite à vous inscrire à ma page culturedempathie.org, culturedempathie.org. Vous pouvez aussi écrire un courriel à culturedempathie@gmail.com. Inscrivez-vous, partagez-le. Merci d'être là.
Le temps est venu de prendre soin.
Bonne écoute.
Prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Prendre soin de soi. Prendre soin de moi. Prendre soin de nous. Prendre soin de vous. Le temps est venu de se lever. Le temps est venu de partager. Le temps est venu. Le temps est venu de s'élever. Le temps est venu de s'élever. So everybody say, so man got a weakness. Well, we gotta stand up and arise. Everybody say,
venez d'écouter la musique de Marianne Aya Omak, la chanson « Time Has Come », magnifique chanson. Puis ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui, le premier podcast de Culture d'Empathie, de Radio Culture d'Empathie, une station de radio très différente de celle qu'on connaît habituellement, vous en conviendrez. Aujourd'hui, je suis tellement honoré qu'on parle à Marie-Émilie Lacroix. Marie-Émilie Lacroix, c'est une femme inoue. C'est une femme engagée, c'est une femme, c'est une mère de famille, une enseignante à la retraite, mais une femme très engagée encore, peut-être plus que jamais, dans un travail de rencontre, de décolonisation. Aujourd'hui, c'est vraiment intéressant parce qu'elle nous parle de décolonisation, elle nous parle des langues autochtones, on a discuté aussi d'histoire, des programmes d'histoire au Québec, qu'est-ce qui s'enseigne dans les écoles, puis qu'est-ce qui a besoin de changer. Puis on a une discussion vraiment intéressante aussi sur la valeur d'avoir des bonnes intentions, mais aussi avoir une attention vers l'impact et les conséquences de nos gestes, même quand les intentions sont bonnes. Alors, c'est une discussion vraiment intéressante, je pense, qu'on a eue ensemble. J'espère que vous allez aimer. C'est un podcast d'environ une heure. Je vous invite à vous inscrire au podcast pour recevoir les prochains épisodes aussi. Merci. C'est Marie-Émilie Lacroix. Merci beaucoup de vouloir me parler. Je sais que nous autres, on s'est rencontrés il y a plusieurs années quand tu étais enseignante, parce qu'on habite dans la même région. En ce premier podcast de Culture d'Empathie, c'était d'interviewer quelqu'un qui habite sur le même territoire que moi, qui habite proche de chez moi puis qui m'inspire. Nous, on habite Marie-Émilie sur la rive sud du Saint-Laurent, du fleuve aux Grandes Eaux. On habite dans les Appalaches, Appalaches et vallée au pied des Appalaches, dans Bellechasse, ce qu'on appelle aujourd'hui Bellechasse. Mais je trouve ça important de commencer par dire premièrement que nous, on habite en ce moment sur un territoire qui a été occupé pendant plusieurs années avant nous par les Premières Nations qui sont arrivées au Canada. Puis il y a eu plusieurs différentes Premières Nations qui ont occupé le territoire ici où on habite. Mais principalement, c'était les Abénakis, Il y a les Malécites aussi qui utilisaient parfois le territoire ici aussi. Ça fait qu'au fond, ce que je voulais faire simplement, c'est reconnaître que moi j'habite sur le territoire de ces Premières Nations-là, puis surtout qui ont tant pris soin de ce territoire, qui fait qu'aujourd'hui on habite dans une région qui est absolument magnifique. On essaye de préserver aussi autant qu'on peut, mais on habite dans une magnifique région qui a été habitée avant plusieurs de mes ancêtres à moi, en tout cas, par toutes ces Premières Nations. Puis je voulais reconnaître ça et remercier cet héritage-là. Puis je trouvais ça important, premièrement, on habite sur ce territoire-là ensemble, mais aussi j'étais vraiment content de pouvoir honorer ce territoire-là aussi en interviewant une femme des Premières Nations, pouvoir honorer cet héritage-là en entendant tout le travail que toi tu fais, puis tout ce que tu apportes toi dans le monde en ce moment pour construire cette culture d'empathie. Alors nous autres, Marie-Émilie, on s'est connus il y a longtemps quand j'étais enseignant, mais on s'est plus connus récemment. Je t'ai plus connu autour un petit peu là, de tout ce qui s'est créé autour de la tuerie à la mosquée de Sainte-Foy. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que tu voudrais juste te présenter un peu, puis aussi si tu veux dire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire en ouverture aussi, tu es la bienvenue.
Donc oui, Missinak Kamel Tutaset, Equakame Hilnotch, Mastoyash, Minutakushini, Tanaspan, Hetito, Chumeshkimetan. Alors, je vous ai dit que je m'appelais dans ma langue Kamel Tutaset, sinon c'est Marie-Émilie. Puis je suis touchée d'être invitée à parler ici parce que c'est toujours un honneur de partager un peu de ma culture. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que Colin t'a dit, puis qui me touchent, parce que oui, regarde d'abord la tuerie de la grande mosquée. Bien, il est sorti quelque chose de très, très important. Parce que, tu vois, on s'est rencontrés à la soirée, oui, mais après, nous autres, on est allés avec les Ganakahenga, qui est les Mohawks de Montréal qui sont venus. Et qu'on a fait un échange culturel dans la mosquée, qui était vraiment touchante, beaucoup. Suite à ça, il y a d'autres groupes qui se sont joints à nous, puis on a fait à chaque année la commémoration. À chaque année, on la fait encore. Puis on a des liens très, très, très amicaux maintenant de développer avec certains membres du temple, de la mosquée, c'est-à-dire. Puis, il y a même un groupe de Québec avec un de mes amis autochtones qui ont parti un jardin communautaire avec les gens de la mosquée. Donc, il se passe, suite à ça, il y a comme une connaissance, un lien qui se crée, puis les gens, ils se rapprochent parce qu'ils voient dans le fond que c'est des êtres humains qui souffrent comme des êtres humains, puis qui ne sont pas d'accord avec la violence qu'on leur a infligée. On a vu chez nous autres, l'automne dernier, la mort de Joyce Echaquan, qui a vraiment aussi rapproché, créé des liens extraordinaires avec les Québécois. Puis on se disait entre nous, si on avait été 10 ans en arrière, ça n'aurait pas été comme ça, là. On n'aurait jamais eu autant de Québécois qui sont venus participer à nos cérémonies. On a fait partout des cérémonies à travers la province pour Joyce. Puis on avait énormément de Canadiens aussi, parce que le lendemain matin, j'animais une conférence nationale, c'est ça, nationale avec une grosse compagnie d'assurance. Puis il y avait des gens de Toronto, puis ils étaient tellement touchés parce qu'ils venaient de se vivre. Ben je me dis, oui, puis dans le fond, ce qu'il faut faire, je pense, c'est d'informer. Il faut que les gens soient informés. Il faut que les gens soient de la désinformation qu'ils ont reçue. Puis on sait très bien que pour nous, les peuples autochtones, c'est l'histoire qui était mal enseignée. Mais c'est ça. Puis je me dis, à l'heure actuelle, je suis en train de faire une recherche sur l'identité. Puis certains livres écrits par des auteurs canadiens ou québécois, entre autres, là. Puis sur l'identité. Puis je dis, les Québécois, là, ils cherchent énormément leur identité. Puis on leur demande, c'est quoi votre culture? Puis ils ne savent pas. Ils n'ont pas une culture propre. Alors j'ai l'impression qu'on se rejoint, les Premières Nations. Puis les Autochtones aussi là-dessus. Parce qu'ils sont peut-être encore plus mal en point que nous, parce que nous, on sait d'où on vient, on sait qui on est. On a à rallumer, si tu veux, la flamme de notre identité. Mais les Québécois ont à se donner une vraie identité.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, quelque part, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous des humains. Quand on aura compris ça, là, on aura compris beaucoup. Puis quand on parle de des gens qui font de la violence, mais c'est des gens qui sont blessés au fond de leur cœur. Ils n'ont pas identifié leurs blessures souvent, puis... Mais quand tu es blessé puis que tu ne sais pas, la blessure, elle prend de plus en plus de place. Puis la violence est en soi, mais dans ce temps-là, elle est attisée vers les autres.
Mm-hmm.
Les autres. Et c'est ça, il y a une brûlure, il y a une colère, il y a une haine, il y a quelque chose. C'est contre soi, mais au lieu de se faire du mal à soi, il y en a qui se font du mal à soi-même, mais il y en a qui vont le faire aux autres parce qu'ils vont avoir comme un reproche à faire à quelqu'un d'autre. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup ça dans la violence.
Mm-hmm.
C'est la mauvaise information, c'est qu'on n'a pas rencontré l'autre, c'est qu'on l'autre vient de nous envahir, la peur de l'autre, puis c'est les préjugés souvent qui sont restés en nous.
J'ai posé la question à Stuart Mio. Peut-être qu'il y en a qui vont s'intéresser à lui, un homme de Kanasataki ou de Kanawagé?
Kanawagé.
Kanawagé. Puis, je lui ai dit, comment que je fais moi pour être fier de mon héritage ou de sentir, tu sais, comme, est-ce que je peux me sentir fier et fort, sachant l'histoire un peu de la colonisation, puis de mes ancêtres, tout ça. Puis en gros, il m'a dit, regarde, toi aussi, tu es autochtone de quelque part. Toi aussi, tu viens de quelque part, tu es un humain comme moi. Puis ça a été tellement une réponse de simplicité puis de bienveillance. Ça m'a redonné confiance à connaître mes ancêtres, connaître mon héritage sans culpabilité puis sans honte, puis avancer avec ça. Puis aussi connaître l'histoire des gens des Premières Nations ici, puis aller à la rencontre. Puis ça, j'avoue, ça m'avait enlevé un poids des épaules, ça m'avait enlevé un peu une culpabilité de dire, c'est pas qu'on a besoin de se sentir coupable, c'est que non, mais il faut aller vers l'autre, puis il faut y aller avec curiosité et ouverture.
Ouais. C'est juste ce que tu disais tantôt. C'est ça. J'oublie toujours de me présenter. Je suis pas forte là-dessus. Hein.
Vas-y, présente-toi.
C'est ça. Marie-Émilie. Puis, je suis Koukoum. J'ai 7 petits-enfants. Puis, j'ai 5 enfants. Ensuite, j'ai eu un parcours un peu spécial adopté quand j'étais jeune. Et j'ai retrouvé ma culture et ma famille il y a à peu près 5-6 ans. Puis je le spécifie parce que je ne veux pas d'appropriation culturelle et toutes ces choses-là aujourd'hui qu'on parle. Ma famille, je la connais, à Mastoyach. Et ça, c'est un autre point que je suis en train de justement travailler. Là, sur ça va être une prochaine recherche sur l'adoption des enfants autochtones en dehors des communautés. Avec le 60 Scope, surtout, qui n'a pas été vraiment développé. Je vais essayer de travailler là-dessus là, bientôt.
Ça n'a pas été développé. Je ne veux pas te déranger, Marie-Émilie. Je veux que tu continues sur ta présentation parce que c'est vraiment, je veux vraiment en connaître plus. Mais c'est quelque chose, c'est le 60 Scoop. J'aimerais ça que tu nous en dises peut-être un petit peu plus tout de suite ou plus tard, selon comme tu veux. Mais c'est quelque chose qu'on entend parler au Canada, mais qu'on entend très peu parler au Québec.
Oui.
Puis ça, c'est un des rôles incroyables que toi, tu as au Québec. C'est qu'au Québec, il y a plusieurs discussions qu'on n'a pas, mais qui se passent ailleurs au Canada.
Oui, c'est ça. Le Québec, il va finir par arriver.
OK.
Alors, j'ai enseigné durant plusieurs années de la maternelle à l'éducation des adultes, en passant par les handicapés, les centres de jeunesse, le centre de désintox pour ados, bon, à l'Abbé James, un peu partout à travers la province aussi. C'était des années extraordinaires d'une carrière vraiment intéressante. Maintenant, quand j'ai terminé, à peu près 4 ans, maintenant, j'ai fait une maîtrise en travail social à l'Université Laval. Puis maintenant, c'est ça, je travaille autonome, mais je fais de la recherche, je publie des articles. Puis, parce que mon but, c'est justement, c'est de permettre la rencontre. Parce que moi, mon mot privilégié, c'est la rencontre. Là. Je veux qu'on se rencontre, enfin, pour qu'on puisse tisser des ponts, puis abolir des frontières qui ont été créées à cause de la conquête, c'est tout, du besoin de conquérir. Puis ça, quand on parle du besoin de conquérir, je vais être très clair, là, on parle de 1 %. Tu sais, le 1% qui est moderne aujourd'hui, il l'est depuis très longtemps. Puis le 1%, c'était les colonisateurs. C'était pas les colons, là. Puis, tu sais, je dis, c'était ceux qui étaient venus pour travailler, puis c'est eux autres qui ont créé des grands liens avec les Autochtones. Ils ont fait des grandes amitiés, puis ils ont vécu des expériences extraordinaires. Donc, c'est ça. Parce que moi, je veux qu'on prenne bien chacun son rôle, puis justement qu'on en finisse avec la culpabilité. Parce que, ouais, les couvertures, souvent, c'est ce que j'entends dans le cercle de parole. Je m'excuse, puis je suis désolée, puis il y en a qui pleurent. Mais oui, mais vous ne m'avez rien fait. Vous nous avez rien fait. Tu sais, c'est la colonisation dans le passé. Puis ça, c'est des ancêtres qui venaient d'Europe. Puis la plupart des colonisateurs, il faut s'entendre, qui sont partis. Il reste quelques grands noms, comme la famille Irving, là, et comment il s'appelait, non? Desmarais, qui a été issu de ces deux autres. Là. Mais sinon, parce que quand il y a eu la conquête par les Anglais, les colonisateurs, là, ils étaient assez riches, eux autres, qui ont pris leurs affaires et sont retournés en Europe, là. Parce qu'ils ne voulaient pas rester ici. Ce qui est resté ici, c'est les colons qui ont été ensuite obligés de s'adapter à ce qui restait des régimes, dans le fond. Donc, c'est pour ça que je te dis, on a besoin de travailler ensemble. Puis l'autre point important, c'est que la terre appartient à personne. Parce que je ne peux pas dire qu'ici, je suis chez moi et que vous ne l'êtes pas. C'est pas vrai. La terre appartient à personne. La seule condition, c'est qu'on puisse maintenant vivre ensemble correctement. Puis, je travaille dans un groupe qui s'appelle Unité Québec. Puis, justement, notre slogan, nous, c'est d'essayer de changer le vivre ensemble en vivre bien. Parce qu'à un moment donné, il y a des mots qui deviennent usés. Comme le vivre ensemble, maintenant, c'est comme ça ne veut plus rien dire tellement l'utiliser. Parce qu'on essaie de voir peut-être du côté de vivre bien ou vivre en s'entendant ou en se rencontrant, peu importe. Donc, c'est ça, la culpabilité, ça crée un fossé de plus parce que on ne va pas aller vers les autres si on se sent coupable. Parce qu'on va rester chacun chez nous. Puis, à un moment donné, j'étais dans une rencontre avec des jeunes étudiants de l'Alberta. Puis, il y en a une qui me disait, ben, vous savez, moi, je vis à Winnipeg, puis on se sent tellement coupable envers les Autochtones qu'on reste loin d'eux autres. Puis, nous, je lui ai dit, moi, nous, on se sent coupable aussi pour avoir ce qu'on a vécu. On a une certaine honte. Ben, on n'ira pas loin, hein. Parce que si on se sent coupable, si on a honte tous les deux, on n'avancera pas. Donc, il faut vraiment être conscient qu'il y a de la culpabilité qui n'est pas à sa place, qu'il y a de la honte qui est inutile, pour qu'on puisse enfin travailler ensemble comme des vrais humains, parce que tous les noms autochtones, c'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire vrai humain. Mm-hmm. Mais est-ce que les noms autochtones ne sont pas des humains? Ben, ils sont des humains. Vous savez, des fois, je pense moi, que c'est la hiérarchie, c'est les rôles de la société, c'est les classes sociales, c'est toutes ces choses-là qui nous ont divisés, qui nous ont mis des êtres supérieurs à d'autres, des gens qui avaient plus de connaissances ou plus de pouvoir que d'autres. Puis ça a juste fait nous éloigner. Alors, je vais revenir à l'arabe des années 60.
Je veux tellement important, selon moi. Tu sais, tu dis, il y a de la culpabilité de part et d'autre, puis de la honte aussi, tu sais. Autant pour les Premières Nations que pour les Blancs. Je me dis déjà, si les gens qui sont dans la culpabilité, ils sont peut-être déjà minimalement en processus. Déjà, ils sont en train peut-être de... Ils ne se posent peut-être pas encore les bonnes questions ou ils ne veulent pas encore nécessairement voir, entendre toutes les histoires puis mieux comprendre, mais ils sont peut-être en processus. Tu sais, parce que je sais que dans mon processus, j'ai passé par la culpabilité que je crois que j'ai passé en... sûrement pas entièrement, mais que j'ai réussi à mieux comprendre pourquoi je me sentais comme ça. Puis ensuite, quand on réussit à l'explorer ça un petit peu plus, puis le regarder franchement pourquoi je vis ça, après ça, je pense qu'on peut vivre une ouverture. Il y a aussi des gens qui sont dans la colère. Il y a des gens qui sont dans la colère, puis ça peut se traduire par les Premières Nations. Ils ne payent pas de taxes. Les Premières Nations, c'est tous les préjugés qu'on va entendre. Pourquoi ils ne sortent pas de la misère? Non, 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 non. Ça, c'est pas de la culpabilité, ça, c'est de la colère. Puis, je pense que c'est un très petit pourcentage de la population qui est là-dedans, mais il y en a quand même. On va l'entendre dans les médias sociaux beaucoup parce que c'est des gens qui parlent très fort. Médias sociaux et pour le Québec aussi, médias radiophoniques, on va le dire. C'est des gens qui parlent très fort. C'est quoi ton expérience avec des gens qui sont encore dans la colère, puis je dirais même dans l'ignorance? Parce que on ne peut pas les oublier, ces gens-là, je pense. Il faut les nommer parce qu'on veut aussi les toucher, ces gens-là. On veut être aussi en relation avec ces gens-là, aussi difficile soit-il.
Oui, mais c'est vrai. La façon que tu l'expliques, c'est vrai que la culpabilité, c'est vrai, ça pourrait être un premier pas parce que ça, si tu es coupable, ça ne va pas bien. Là. Tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Mais oui, c'est sûr. Puis, c'est une étape d'ouverture, en effet. C'est ce que je vis beaucoup dans les rencontres avec les étudiants, parce que même avec le télétravail, on continue d'en faire, des rencontres avec les étudiants du cégep et de l'université. Puis, c'est ce qu'on voit. Ou bien c'est l'ignorance. Ils ne savent pas que les Autochtones existent, puis ils ne savent pas leurs problèmes. Ou bien c'est les préjugés qui ont été tellement bien ancrés dans la société. C'est très dur à les déraciner, si tu veux. Mais aujourd'hui, il existe tellement d'outils. Tu sais, il y a comme un petit livre qui circule ces temps-ci qui s'appelle « T'as pas l'air autochtone ». Il y en a 10 préjugés qui sont déconstruits. Et ça circule énormément. Ben oui, mais dans le fond, les faveurs, il n'y en a pas tant que ça quand on regarde ça, parce qu'il faut avoir, il faut être un autochtone, un Indien, parce que sur la loi des Indiens, c'est encore comme ça qu'on s'appelle. Là. Les Indiens, il faut être inscrit pour avoir les faveurs. Puis les faveurs sont juste si tu restes sur une communauté, communément appelée réserve avant, le mot que je demande aux gens de sortir de leur vocabulaire, de ne plus employer. On vit dans des communautés, parce que juste le mot réserve, déjà, ça mène distance. C'est pas accueillant d'aller sur une réserve, parce qu'une réserve, c'est réservé, c'est pas ouvert à tout le monde. Alors que c'est ce temps-là est révolu, qu'on veut accueillir les gens le plus possible. Ben oui, ben la colère, c'est aussi une étape, mais comment y faire face? Ben, c'est sûr que c'est encore là en se rencontrant. Parce que tu es fâché contre quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu as entendu dire qu'il profitait de toi parce que c'est toi qui le faisais vivre. Hey, moi, je travaille dur, vive un autre qui ne travaille pas. Ben, si tu rencontres l'autre puis que tu te rends compte que c'est pas vrai ce qu'on t'a enseigné, ben, ça peut aider. Ben, c'est pour ça que je pense que Saint-Clair, le juge qui présidait la commission Vérité et Réconciliation, qui a dit « C'est l'éducation qui nous a mis dans ce pétrin, seule l'éducation va nous en sortir. » Mais c'est l'éducation des allochtones et des autochtones. C'est pas juste les autochtones qui ont besoin d'être éduqués. Là.
Ouais.
Les allochtones ont entendu une mauvaise histoire. Ils ont entendu une version d'histoire. Puis je peux vous dire en passant que l'histoire du Canada, des Canadiens, n'a pas été dite non plus, là. On a dans les livres d'histoire, on parle des héros, seulement des héros.
Ouais.
On ne parle pas de la domination que les colons ont vécue par le système anglais ou français, selon la domination qui était ici. Alors donc, l'histoire a été mal dite à tout le monde.
Et puis nous, on s'est connus, Marie-Émilie, quand moi je commençais ma carrière d'enseignant à Saint-Anselme. Tu étais enseignante dans quelle matière encore?
Éthique et culture religieuse.
C'est ça, éthique et culture religieuse, c'était parfait pour toi.
Hey.
Je suis vraiment content que c'était toi. Là. Je suis sûr que tu as eu un impact, vraiment un grand impact sur plusieurs jeunes de la région ici. Je suis vraiment content que tu aies été là. Puis moi, je commençais ma carrière comme enseignant histoire-géographie. Puis en ce moment, je ne travaille plus comme enseignant d'histoire depuis longtemps. Mais je peux te dire que c'est une des raisons qui m'a poussé à faire d'autres choses, enseigner autrement. Parce qu'en ce moment, j'enseigne aussi, là. On est en train d'enseigner. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont écouter ce qu'on fait là. Mais j'ai décidé de ne pas enseigner l'histoire qui était dans les manuels d'histoire. Parce que je voyais très bien que l'histoire, la manière qui était enseignée, n'était pas... C'était l'histoire des vainqueurs.
C'est sûr.
C'était l'histoire des gens qui... C'est drôle, hein? L'histoire des vainqueurs, donc ceux qui avaient anéanti les peuples autochtones, ceux qui avaient gagné les guerres, mais en tant que Québécois, c'était aussi l'histoire des pauvres francophones.
Puis faut que tu dises aussi que ces gens-là ont vécu au détriment de ou en exploitant les colons, ou en exploitant ceux qui sont restés. Hein. Ça, mais, c'est pas écrit, ça.
On partira pas trop là-dessus, parce qu'on pourrait, je pense, partir là-dessus longtemps, mais en gros, effectivement, tu sais, c'est drôle, mais moi, c'est une des raisons principales qui a fait que j'ai arrêté d'enseigner ces livres-là, puis je j'acceptais plus d'enseigner l'histoire telle que dictée dans le programme d'histoire du Québec, parce que c'est une vision restrictive et déformée de la réalité. C'est pas cette histoire-là qu'on a besoin d'entendre. Je pense qu'on a besoin d'entendre les histoires des gens comme toi, des récits de vie. On a besoin d'entendre. Puis d'autres histoires plus diversifiées aussi. Comme moi, par exemple, ça m'a poussé à savoir c'est qui mes ancêtres. Puis là, j'ai commencé à savoir que, wow, moi, mes ancêtres, je ne suis pas juste, tu sais, comme on dit un peu, on est tous des descendants de Français. Mais non, moi, j'ai plein d'ancêtres qui viennent de Russie, d'Ukraine. La moitié de mon héritage est juif. L'autre moitié est plus français, effectivement. Ça fait que moi, ça m'a poussé à mieux connaître mes propres racines. Puis, il y a une chose que je voulais aussi dire par rapport à ce que tu disais tantôt, tu sais, la Terre appartient pas à personne.
Ouais.
On peut vivre ensemble sur la Terre. Puis, je viens de lire un livre d'une femme, Naomi Fontaine,
ouais,
de Ouachat. Un livre formidable qui s'appelle Shuni. Là-dedans, ce qui m'est le plus ressorti, c'est quand elle dit les Premières Nations, nous, on n'a pas de problème à partager ce territoire avec toutes les gens qui viennent de d'autres endroits. On n'a pas de problème à partager, on n'a pas de problème à vivre avec la modernité puis les changements qui sont venus. Ce qui est difficile, c'est d'être bafoué, c'est d'être écrasé, c'est de ne pas être respecté dans ce que nous, on est. C'est ça, la difficulté. C'est que je pense que ça, déjà, ça peut faire bien des préjugés sur « Ah, les Autochtones, ils veulent soit, tu sais, ils veulent pas la modernité ou c'est pas bon pour eux ou, tu sais, non, c'est pas ça du tout. Tous les peuples, on a tout à s'adapter à, tu sais, une idée qui vient de l'Asie, l'autre, telle tradition d'Afrique. Le mélange des cultures peut se faire et on a vraiment besoin de respecter aussi. Puis quand on écrase une culture, comme par exemple empêcher de parler une langue, les Autochtones de parler leur langue, ou à la limite ne pas supporter des cultures dans leur développement, puis ne pas reconnaître aussi les blessures qui ont été infligées à des peuples qui ont des conséquences profondes, bien là, on continue à écraser. C'est vraiment ça. Il faut reconnaître. Puis je pense que déjà, ce travail-là de reconnaissance peut amener une guérison incroyable.
Ben oui, c'est le premier pas à faire, c'est ça. C'est de reconnaître l'autre comme un être humain, comme un être égal à moi, puis qu'on peut vivre ensemble, puis partager ensemble. C'est ça. C'est ça l'essentiel. Tu sais, le mot « Québec » dans « Inou », ce que ça veut dire?
Est-ce qu'il y a un mot « Inou » Québec?
Oui.
OK.
Comme Canada, le vrai mot, c'est Canada.
OK.
Mais ce que ça veut dire, Québec, ça veut dire descendre de ton grand canot. Ça veut dire que quand les gens sont arrivés, on les a invités à débarquer.
Ah oui, hein?
Vous le savez très bien, ça a été écrit dans les livres d'histoire. Là. Champlain, il était accueilli à Tadoussac là, par une grande fête.
Mm-hmm.
Puis il a toujours été accueilli par une grande fête parce que le respect, chez nous, il y a les 9 grands, les 7 enseignements des grands-pères. Hein? Puis les 7 enseignements des grands-pères, ça a toujours passé à travers les traditions, puis ça passe encore à travers l'enseignement qu'on donne. Bien, parmi ces enseignements-là, il y a le respect.
Mm-hmm.
C'est le respect de chaque humain, c'est le respect de chaque objet, de chaque élément de la nature. C'est le respect en toute chose, en tout temps, en tout lieu. Ben, quand tu mets le respect là-dedans, l'amour, puis la sagesse, puis tout le reste, ça vient facilement. Mais c'est ça. Si on revient justement à l'idée de vivre ensemble, de partager la même terre,
mm-hmm.
C'est ça, c'est que nous autres, les Autochtones, on était prêts à ça, mais on était pris par surprise. Et il y a eu les pensionnats qui ont fait beaucoup de tort aux Autochtones et qui ont laissé la blessure intergénérationnelle qu'on vit encore aujourd'hui, que ça va prendre, on ne sait pas combien de temps à guérir, mais qu'on a des remèdes, puis on les a nos remèdes. On n'a pas besoin qu'on nous en suggère, on les a nos remèdes.
Mm-hmm.
Ensuite, la rave des années 60 qui a passé, moi, je vois une progression là-dedans. Si vous avez lu Albert Mellin, qui donne les étapes de colonisation,
peux-tu répéter le nom, s'il te plaît? C'est quoi le nom de l'auteur?
Albert Memmi.
OK.
M-E-M-M-I. Alors, lui, il dit que les étapes de colonisation pour n'importe quel pays dans le monde, c'était la même affaire. Tu sais, c'est la brèche. Ensuite, c'est de rentrer dans cette brèche-là. Puis ensuite, c'est la désolidarisation. Puis ça marchait comme ça ici. La brèche, c'était la santé. Donc, on a emmené des maladies. Puis, on a démoli notre deuxième, celui qui était fort pour régler nos failles, c'était l'homme médecine. Lui, il avait tous les médicaments, toutes les plantes pour soigner les maladies qu'on avait ici. Et quand sont arrivées des maladies européennes, bien, notre homme médecine était complètement mis de côté. Il n'y avait plus aucune crédibilité parce qu'il ne pouvait pas soigner ces maladies-là. Donc, on l'a mis de côté. Désolidarisation, bien oui, il y a eu ça. Il y a eu la religion qui a coupé beaucoup nos familles. On avait des choix drastiques à faire. Tu es catholique ou tu sors. Puis ensuite, on est arrivé avec les pensionnats, qui était le but bien connu de tuer l'Indien chez l'enfant. Mais en tuant l'enfant, on a tué les familles. Puis quand on a vu que c'était rendu comme un système désuet, bien, on a évolué. Puis on a pris la robe des années 60. La robe des années 60, ça a commencé avant les années 60, mais ça a duré jusqu'aux années 70. Bien, c'était une autre forme de contre-éducation. On venait arracher les enfants dans les communautés autochtones ou dans les hôpitaux, s'ils étaient rentrés dans l'hôpital parce qu'ils étaient malades, parce qu'on les donnait en adoption. Okay. Mais la formule spéciale qu'il y avait dans ce temps-là, c'est qu'il y avait un catalogue. Mettons, Colin et ta conjointe, vous vouliez adopter un enfant, tu disais, on veut un garçon, mais vous montrez le catalogue, vous choisissez un garçon, puis ça vous coûtait 200 $. Okay. Si vous vouliez avoir une fille, ça vous coûtait 100 $. Si à un moment donné, vous arrivez avec le garçon, la journée qu'on vous remettait l'enfant, on disait, oh, on oublie de vous dire, il y a une jumelle, mais elle, on vous la donne. Parce que c'était vraiment un commerce d'enfants. Puis ça, les enfants étaient vendus aux États-Unis, au Mexique. Et aujourd'hui, ben moi, je dis que je fais partie un peu de... C'est qu'aujourd'hui, comment on fait pour retrouver nos familles? Si t'es au Mexique, t'es été adopté. Si t'es aux États-Unis, t'es été adopté. Tu sais peut-être même pas que t'es autochtone. Parce que le but, c'est de tuer, c'est de génocide, dans le fond. C'est d'éliminer les autochtones. Mais ça n'a pas marché.
Tu sais, c'est comme j'ai eu un... Je vis des émotions en entendant ça, tu sais, que c'est un commerce qui existait ici au Québec puis au Canada qui se rapprocherait, je dirais, quasiment de la vente des esclaves noirs aux États-Unis. À quelque part, prendre des enfants puis dire, voici, on les prend de leur culture puis on va les vendre à des gens qui peuvent pas avoir d'enfants. J'imagine, dans ce temps-là, peut-être qu'ils s'imaginaient faire ça par bienveillance pour ces enfants-là, puis pour la culture, la société. Mais d'entendre ça aujourd'hui avec cette perspective-là qu'il y avait même des catalogues, c'est traité finalement ces enfants et ces familles comme moins que des humains. Moins de dignité, en tout cas, que comment on traitait des gens qui étaient non autochtones. Est-ce que toi, c'est la situation qui t'est arrivée quand tu étais une enfant? Est-ce que tu as été adoptée quand tu étais très petite?
Oui. Oui. Puis, suite à ça, justement, c'est que les parents qui adoptaient, il n'y avait pas toujours juste le catalogue. Il y avait aussi les orphelinats classiques. Là. Moi, j'ai été prise dans un orphelinat. Mais ce qui arrivait, c'est que les parents ne savaient pas, des fois, que l'enfant était autochtone. Okay. Et quand ils le découvraient, c'était pas un cadeau, là. Parce que tu peux mettre toute la maltraitance des enfants aussi. Et souvent, il y a des enfants adoptés qui ont été adoptés pour être des serviteurs. Mm-hmm. C'est des enfants autochtones, sont forts, sont capables d'en prendre. Parce qu'il y avait des conditions physiques, puis il y avait des conditions affectives très difficiles. Mais pas tous les enfants, là, mais beaucoup. La maltraitance, ça, c'était bien connu. Mais en vivant ça, tu vis t'es brisé dans ton identité. T'es plus un être humain, là. Je sais pas quoi, mais en tout cas. Mais le but, c'était toujours le même. C'est de se débarrasser des Autochtones le plus possible. On l'a fait de différentes façons. Puis comme tu as dit, il faut le souligner, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec de bonnes intentions, mais qui donnent des mauvaises conséquences.
Ouais.
N'importe qui peut faire ça. Même moi, je peux faire ça. Je peux avoir une bonne intention pour aider mon conjoint. Disons, je sais pas, lui donner je sais pas trop quoi pour lui dire « Ah, ça va l'aider, ça. » Mais la conséquence va être négative parce qu'il n'en a pas besoin. C'est moi, ça. Je voudrais qu'on comprenne que pour aider quelqu'un, il faut lui demander « Qu'est-ce que je peux faire? Quel est ton besoin? Mm-hmm. » Je n'ai pas à décider pour l'autre. Pas du tout. J'aide pas dans ce temps-là.
on a souvent tendance à vouloir dire à l'autre, puis je pense qu'à tous les niveaux, autant comme individu que comme le gouvernement aussi, voici ce que tu as besoin. Voici, je te donne ça, puis règle tes problèmes avec ça. Puis il y a quelque chose de tellement clé de ce que, dans ce que tu viens de dire, c'est que notre aide soit plus quelque chose qui est lancé à l'autre, mais que notre aide soit une curiosité vers l'autre.
Oui.
Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, comme tu viens de dire? Qu'est-ce que je peux faire pour... Puis dans le cas des relations entre allochtones et autochtones aussi, ça pourrait être qu'est-ce que je peux faire pour rentrer en relation avec toi de façon respectueuse? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider en ce moment dans ce que tu vis? C'est ce que j'appelle la culture d'empathie.
C'est ça. Mais avant de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a besoin, l'important, c'est de se rencontrer, c'est de se connaître. Parce que, tu sais, je veux dire, il faut faire attention aussi. Les autres n'ont pas nécessairement besoin. Ils sont peut-être autonomes. Les Autochtones, en général, c'est des gens qui aiment ça se débrouiller tout seuls.
Mm-hmm.
Ça fait partie de notre culture.
Ouais.
Parce que, tu sais, on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'aide. Mais, je veux dire, on est dans un système de patriarcat, là, tout le monde.
Ouais.
Que c'est la, comment ça s'appelait, donc l'État qui pourvoyait à tout.
L'État-providence?
L'État-providence, c'est ça. Ça donnait tout. Tu n'avais plus besoin de penser à rien, bien-être, assurance chômage. On a tous mis des programmes pour, on va tout régler à votre place. Tu n'avais plus besoin de penser. Mais chez nous, on a amené les conseils de bande. On a amené aussi des programmes puis des services. Mais, puis là, on l'a vu avec les différentes commissions qu'il y a eu, la commission Vient, entre autres. Bien, c'est des choses, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, donc. C'est pas dire devant des milliers de personnes, parce qu'aujourd'hui, ça se fait des caméras, ce que j'ai vécu comme abus pour dénoncer les policiers qui va me faire du bien.
Ouais.
C'est bien difficile pour moi. Puis en plus, qu'il se passe rien après.
Ouais.
La commission Vient, on est allé dire ce qu'on avait besoin comme service. Qu'est-ce qui manquait dans le service? Bien là, on va lui donner du temps, là, encore. Mais il ne se passe pas grand-chose après.
Ouais.
Puis, vérité et réconciliation, ben, elle, par exemple, je trouve qu'elle a réveillé beaucoup de Québécois. Beaucoup de Canadiens aussi. Parce que ça a amené des révélations que les Canadiens et les Québécois ne savaient pas. Ça a commencé à ouvrir les yeux. Ben, là, on voit, c'est une page qui a été révélée. La commission Vient aussi. Comme je te disais tantôt, Joyce et Sequan, son histoire, si elle avait été vécue il y a 10 ans, on n'aurait pas eu les impacts, on n'aurait pas eu la sympathie qu'on a eue. La commission Vient a probablement aidé aussi. Mais sinon, c'est beaucoup d'argent, puis ça fait notre philosophie, c'est beaucoup d'argent qui est mis pour des services qui ne correspondent pas à notre réalité.
Mm-hmm.
Puis l'autre affaire, quand on met des programmes sur les communautés autochtones, c'est des programmes souvent qui vont s'adresser à des individus. On fonctionne pas individuel, nous autres, on fonctionne en communauté. On fonctionne en la société au complet. Alors, si tu prends une personne dans le village de H, puis tu lui donnes tu le mets responsable d'un projet, ou d'une situation quelconque ou d'un nouveau service, bien, il ne sera pas nécessairement bien vu dans la communauté parce qu'il devient comme un privilégié des Blancs.
Oui.
Mais c'est nous faire encore du mal comme ça. Ben, l'intention est peut-être pas mauvaise tantôt, mais la conséquence n'est pas ajustée à la réalité de ce que nous sommes.
C'est drôle, mais Émilie, tu sais, comme tu parles de l'intention puis de l'action, puis je pense que là, je suis content, on touche à plein de petites clés, là, je trouve, en ce moment, mais c'est tellement important parce qu'on entend tellement souvent, puis moi-même, tu sais, ça m'arrive souvent, « Ah, c'était pas ça mon intention.
Ouais. »
Si avec ma conjointe, avec un ami que je blesse pour une raison X, ça va être facile que je dise « Ah, c'était pas ça mon intention. » Puis vu que c'était pas ça mon intention, je veux être tout de suite pardonné. T'sais? Comme si ça, tout de suite, ça, je voulais que ça m'excuse puis que ça s'arrête là. T'sais, hop, je veux plus qu'on parle de mon comportement parce que c'était pas ça mon intention. Mais je pense qu'on est rendu... Là, faut aller un pas plus loin. Là. Faut aller un pas plus loin puis se dire « OK, c'était pas ça mon intention, c'est correct, je vais le dire. Et c'est quoi la conséquence de ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait? » Puis c'est ça un peu, en ce moment, je pense que la société canadienne québécoise, on a besoin de vivre, c'est comme, OK, c'était pas notre intention nécessairement de faire mal aux populations autochtones. Il y en a pour qui c'était leur intention, OK? C'était une minorité, tout petit nombre, mais je pense que la majorité, c'était des gens que c'était pas leur intention. Mm-hmm. Et à ce qu'on peut quand même regarder c'est quoi les conséquences. Mais est-ce que la conséquence ou est-ce que la réalité de ce que ça apporte, est-ce que c'est positif? Puis est-ce qu'on est game de regarder collectivement c'est quoi cet impact-là? Puis s'il marche, tant mieux, mais s'il marche pas, comment qu'on peut réajuster le tir, mais en considérant, et pas en considérant, en ayant un dialogue ensemble sur ce que les réels besoins sont et les réelles actions sont.
On commence par l'individu. Changer une personne à la fois, ça changer soi-même en premier. Mais là, c'est en train de se faire avec des choses comme tu fais là, puis avec des exercices de couverture, puis avec Espace autochtone sur Radio-Canada font du très bon travail. Ensuite, il y a Marie-André Gill aussi avec Histoire Crochie.
Oui.
Radio-Canada. Il y a Serge Bouchard. Il y a plein de monde. Il y a, comment il s'appelle, là? Alain Deneau, là. Il y a plein de monde sur Radio-Canada maintenant qui donne de la vraie information parce que ça aide beaucoup à sensibiliser les gens individuellement. Ensuite, on s'organise en organisation, si tu veux. J'en ai plein à te nommer tantôt. Au début, je t'écoutais, puis j'en ai plein de petits organismes qui ont comme objectif de réunir des gens pour se rendre. Il y a une chose importante aussi, c'est le vocabulaire. J'en parle beaucoup, puis maintenant, les gens se rendent compte que c'est vrai. Là. Il y a des mots qui n'existent pas dans nos langues. Et alors, si on s'assoit ensemble et qu'on commence à parler de réconciliation, par exemple, ça c'est un mot, ou de paix, des mots qui n'existent pas dans nos langues. Parce que là, on écoute parce qu'on est respectueux. On écoute durant des heures. On s'est perdu parce que l'image dans notre tête, on n'en a pas. Puis l'autre chose, la réconciliation, on nous l'a expliqué, là, c'était réparer une brisure. Tu sais, il y a eu un moment où il y a eu quelque chose, puis on s'est séparés. On a là, mais c'est quand on a fait ça, nous autres? On n'a jamais rien fait de ça. Puis c'est pas les individus encore, c'est au niveau du gouvernement qu'il y a eu une faille dans le système qui nous ont rejetés, qui nous ont mis de côté. Alors, avec qui on doit se réconcilier? Là, à l'heure actuelle, il faut se réconcilier en décolonisant les universités, en décolonisant l'enseignement, en décolonisant le peuple, peut-être décoloniser le gouvernement.
Oui. Hein? C'est un gros travail. La décolonisation, c'est quelque chose qu'on entend parler. Bien, au Canada, anglais, la décolonisation, decolonization, c'est quelque chose qui se parle depuis longtemps. Au Québec, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, la décolonisation. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne veut pas dire grand-chose. La colonisation, je pense, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu, on voit le bûcheron qui coupe des arbres, qui fait une maison de bois rond, blablabla, tout ça. Okay?
C'est ça.
Maintenant, la décolonisation. Wow, c'est quoi ça? T'sais, c'est comme un peu, c'est quoi, c'est un bûcheron qui replante des arbres, qui s'en va? C'est quoi en soi la décolonisation? On entend souvent la décolonisation de nos esprits. Toi, tu viens de parler de la décolonisation des institutions. C'est quoi exactement? Puis pourquoi c'est si important, Marie-Émilie?
Tu sais, dans le mot de culpabilité, moi, j'ai cherché au début décolonisation. Puis dans ma tête, je me suis dit, c'est sortir le colon de quoi?
C'est sortir le colon de nous.
Ben oui, mais le colon. Puis là, le colon, c'est qui? Ben, je dis. Si on prend un ancien système, parce qu'on ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui, on ne va pas dire que les autochtones, c'est des colons. On n'est plus à ça.
Oui.
Alors, donc, je me suis dit, ben c'est pas ça. Donc, ça doit être, la colonisation. OK, on a colonisé. Maintenant, il faut... Mais comment on va faire pour le décoloniser? On ne peut plus revenir à l'état primaire.
Oui.
Bon. Finalement, je me suis dit aussi, ce terme-là, les allochtones ont de la misère avec parce que c'est comme culpabilisant pour eux autres.
Oui.
C'est vous autres qui avez colonisé, ben il faut maintenant que vous décolonisez. Ben, t'es accuses. Et là, comment je vais en train qu'accuser, je vais me défendre.
Oui, exact.
Tu sais, je vais pas coopérer, je vais me défendre en premier, hein, puis de quoi on m'accuse. Alors donc, je sais pas. Puis, tu sais qu'en les autochtones en Amérique du Sud, ce mot-là, pantoute, il n'est pas accepté du tout. ça ne passe pas. C'est pas significatif ou rien. Parce que moi, quand je parle dans l'université ou ailleurs, je dis, oh, s'il vous plaît, au lieu de décoloniser, on pourrait-tu parler d'accueil? On va s'accueillir l'un et l'autre. Puis, parce que le but de la décolonisation, dans le fond, c'est qu'on devienne égaux ou qu'on ait des privilèges égaux ou qu'on travaille ensemble de façon égalitaire, dans la recherche, dans l'enseignement, sur la rue, n'importe où, c'est qu'on soit égaux. Pour moi, la décolonisation, c'est ça. Mais donc, c'est dans l'accueil que je vais faire ça, moi. C'est en accueillant l'autre puis en étant accueilli, tout simplement, parce qu'on revient encore à la rencontre. Moi, je te le dis, j'en sors pas. J'enseigne, je suis chargée de cours à l'université, hein. Puis c'est ça que je mets dans la tête des gens, c'est rencontre. Ouais. Allez, quand c'est pas la COVID, là, j'amène mes étudiants sur des communautés autochtones. Puis ils veulent pas y aller tout seul, ils ont peur. Puis j'enseignais au secondaire, les étudiants me disaient, madame, ben tu nous dis d'aller chez sur un village à Wendake, c'est proche, là. Ben, tu vas-tu venir avec nous? Ben, voyons donc. Quand tu vas au centre d'achat, je te demande pas de venir avec moi. J'aurais besoin d'aller avec toi. Ben, même les jeunes de 12, 13 ans, ils ont peur d'aller sur une communauté tout seul.
Ouais.
L'image est forte. Mais c'est encore le mot réserve qu'il faut enlever. Mais aller dans les powwows, aller dans toutes les cérémonies qu'on annonce sur Internet, le Koué, l'événement Koué à chaque mois de septembre en face de la colline parlementaire. Ça, c'est un des plus beaux événements jamais créés, hein, pour rapprocher les gens. Sais-tu pourquoi?
Pourquoi? Parce que
les Blancs, ils sont chez eux. Ils sont en face de leur Parlement. Puis c'est les Autochtones qui viennent. Les 11 nations viennent. Puis ils ne viennent pas vendre des affaires. Ils viennent présenter leur culture.
Oui.
Parce que là, les gens, les Québécois, ils viennent rencontrer les Autochtones sur leur propre territoire. Ils ne se sentent pas mal. Puis, ils voient les Autochtones danser, ils peuvent manger de la nourriture autochtone, ils peuvent poser des questions, voir des films, rencontrer des Autochtones tout simplement qui sont à chaque bord de la table, puis on se parle. Puis, c'est comme magique, ça. Je trouve cet événement-là
extraordinaire. C'est un superbe événement, effectivement. Je suis allé deux fois, deux années différentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Koué, K-W-E-I. J'avais été à une table ronde, les jeunes Autochtones qui venaient parler de leur langue.
Hey.
Ça a été une table ronde absolument magnifique. C'était toutes des jeunes de. Tu sais, je me souviens qu'il y avait une jeune femme de Wendake, il y avait un jeune Atikamek, il y avait un jeune Innu, puis c'était des jeunes dans la vingtaine qui avaient appris leur langue maternelle dans leur enfance, soit qui se la réappropriaient comme jeune adulte. Puis l'importance de connaître sa langue. Puis de la garder vivante. Mm-hmm. J'ai trouvé ça vraiment touchant, super beau. Puis j'ai réalisé, en écoutant ces jeunes-là, j'ai vu le dynamisme et la fierté de ces jeunes-là, de leur langue. Puis je me suis dit, OK, qu'on arrête de parler des langues qui meurent puis des cultures qui meurent, non. Il y a des jeunes qui vont garder ça vivant. Puis il faut les supporter, bien sûr, mais ça m'a quand même donné confiance. Puis aussi, j'ai trouvé ça magnifique parce que je voyais que c'était, encore une fois, il faut sortir de l'image de ce jeune-là pour qu'il garde sa langue, il faut qu'il reste dans sa réserve, il faut juste qu'il chasse puis qu'il pêche, puis faut pas qu'il y ait d'ordinateur, là, tu sais. C'est un autochtone. Tu comprends l'image un peu que pour garder sa langue, il faut aussi tout rejeter le reste. Ce que je me suis rendu compte, c'est que ça, c'était des jeunes, il y en a qui habitaient à Montréal. Il y en a qui étaient designers. L'autre était une danseuse professionnelle, une jeune femme de Wendake absolument formidable. Mais en « et », c'est pas « mais », c'est « et ». Ils honoraient aussi leur langue. Ils honoraient leur territoire. Ils honoraient leurs ancêtres. C'est sortir... La culture d'empathie, c'est sortir de l'exclusivité. L'inclusion, tu sais. C'est un mot à la mode, l'inclusion, en ce moment, c'est vrai. Mais c'est un mot tellement important, je trouve, quand même. Que finalement, on peut dire... Un jeune peut dire, moi, je vais reconnaître ma langue, ma culture, et en même temps, je veux être programmateur informatique à Québec, tu sais. C'est un équilibre quand même fragile, tu sais, dans le sens que c'est de tenir tous ces morceaux-là, c'est pas facile, mais je crois que c'est possible.
Ouais.
Même que je trouverais ça le fun qu'il y ait de plus en plus de Blancs qui s'intéressent aux langues autochtones aussi.
Puis,
à Québec, le CERCISIS a fait un travail incroyable pour des manuels d'initiation à certaines langues autochtones. Là. Je sais qu'ils ont un manuel d'initiation à la langue Innu puis à la langue Atikamekw. Puis ça, c'est un travail absolument formidable. Puis je me dis, c'est peut-être la prochaine étape. que ça soit plus juste au Québec, que ça soit... Là, je suis en train de rêver, là. Il y en a qui vont dire, bon, il va un peu fort, là. Mais que ça soit plus juste l'anglais puis le français qui soit appris. Mais c'est à Côte-Nord qu'il y a des cours... C'est à Côte-Nord qu'il y a des cours d'Innu pour les enfants du primaire. Tous les enfants du primaire apprennent un peu d'Innu. À Québec, que tous les enfants apprennent un peu de Huron-Wendat. Que dans la région de Montréal, que tous les enfants apprennent certaines des langues des sept nations. Effectivement, je ne sais pas si c'est fou un peu mon idée, Marie-Émilie?
Non, je vais embarquer là-dessus, non? Mais avant, je voulais te demander, les Québécois, est-ce qu'on vous demande encore de danser les danses carrées? Eh non, hein? Il y a quelques Québécois qui, dans le temps des fêtes, vont encore aimer entendre les rigodons, là, ouais. qui vont danser entendre les danses carrées. Ça fait partie de la culture traditionnelle.
C'est ça.
C'est plus nécessairement quelque chose qui est pratiqué ordinairement. Là,
plus... Marie-Émilie, tu sais, je vais donner une image. Je trouve que c'est bon ce que tu dis. C'est bon que tu ramènes cet exemple-là. Si on me dit, tu vas aller à Wendat, puis tu vas danser la danse traditionnelle des danses des sept carrés pour les Autochtones de Wendat pour leur montrer ta culture, ben, je vais être comme, je danse ça une fois par année. C'est pas vraiment, tu sais, comme... Je vais peut-être leur vouloir leur parler d'autres choses que j'aime jardiner, tu sais, de ce que j'aime vraiment. Et... J'adore les danses traditionnelles. J'adore les danses traditionnelles, puis c'est une des parties de la culture canadienne-québécoise préférée, parce que c'est des danses traditionnelles, c'est quelque chose qui nous ramène en cercle, qui nous fait...
Rassembleur,
exactement. Mais je ne voudrais pas être stéréotypé par ça non plus.
Bien, c'est ça. c'est la même chose chez nous. T'sais. Tantôt, tu parlais de l'événement avec Aïcha. Aïcha, c'est une belle danseuse professionnelle, mais elle danse autant les danses traditionnelles autochtones que les danses modernes maintenant, parce qu'elle est créatrice de danse. Mais elle est moitié nigérienne, puis moitié Wendat, de par son père nigérienne. Mais puis debout, j'ai connu plusieurs, l'été dernier, j'ai rencontré plusieurs jeunes de Wendake qui sont métissés comme ça. De plus en plus d'Autochtones sont mariés avec des gens d'Afrique, d'autres pays, même de l'Asie. C'est extraordinaire. Puis ces jeunes-là, puis moi aussi, dans le fond, j'ai été adoptée chez des Québécois. Bien, on a des deux cultures. Puis c'est sûr que des fois, on peut en privilégier une plus que l'autre parce qu'on se sent plus une que l'autre. Mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est une richesse. C'est pas une pauvreté que d'avoir... La culture en soi, c'est une richesse de toute façon. Mais je voulais aussi vous dire que les jeunes, c'est des ambassadeurs très, très dynamiques à l'heure actuelle. Hein, on les voit beaucoup à l'espace autochtone, comme je disais tantôt à Radio-Canada, comme des oratrices ou des orateurs extraordinaires. On a le réseau APTN qui présente les nouvelles de chez les différentes communautés puis des émissions autochtones aussi. On a aussi Wapikoni Mobile qui a des centaines et des centaines de films qui sont faits par des Autochtones pour faire connaître la culture autochtone. Parce que c'est des endroits où vous pouvez rencontrer des Autochtones dans la maison chez vous, en toute facilité, hein. Puis apprendre. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de plus d'auteurs autochtones, des livres autochtones, ça se publie maintenant énormément par des Autochtones. Ça vous donne des occasions de voir qu'on pense, puis on vit la même chose que tout le monde. Puis il y a des livres d'histoire qui sont écrits maintenant par les Autochtones, puis ça, c'est essentiel. Il y a des professeurs d'histoire, des aînés ou des personnes... ressources qui sont dans les écoles pour parler des Autochtones. Et pas juste dans les écoles. Moi, je suis invitée partout, là, dans des organismes, dans des festivals.
Avec Marie-Émilie, toi, tu... puis juste comme ça, là, pour ceux qui voudraient juste se dire « Ah, j'aimerais ça savoir un livre avec lequel commencer. » J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je vais le répéter. Si vous voulez lire un livre super, court à lire, qui vient droit du cœur d'une femme Innu, Naomi Fontaine, qui habite à Québec.
Non.
Bon, qui habite plus à Québec, qui habitait à Québec quand elle a écrit le livre, mais je sais pas, elle habite où maintenant?
Ouachat.
Ouachat, elle est retournée à Ouachat, OK, très intéressant. Mais elle a écrit le livre quand elle habitait à Québec, donc elle connaît bien aussi la culture, culture québécoise. Le livre Shuni, S-H-U-N-I, magnifique, magnifique. Je le conseille à tous.
Oui.
Marie-Émilie, tu dis que tu te fais inviter un peu partout. Pour ton travail, puis j'aimerais ça que tu nous en dises un petit peu plus, parce que tu sais, ça se peut qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui se disent « Marie-Émilie, je veux en savoir plus sur elle, puis je veux savoir comment qu'elle peut amener son travail à soit à mon organisme, à mon école, à mon employeur, etc. Peux-tu nous parler un peu? Je sais que tu fais des conférences, mais est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un petit peu de l'exercice des couvertures?
Mm-hmm. Oui, bien, l'exercice des couvertures, c'est un projet qui a été parti par Kairos Canada. Ça fait déjà plusieurs années. Ça a commencé dans l'Ouest canadien à Vancouver en 1998-99, dans ce coin-là. Puis moi, au Québec, ça fait 5 ans maintenant que je l'anime. Puis c'est dans l'exercice des couvertures, les participants, c'est un jeu de rôle parce que les participants deviennent des autochtones. Parce qu'ils donnent des objets traditionnels autochtones, puis au début, ils se promènent, puis ils font des échanges, du troc, comme on vivait dans le temps. Et ils trouvent ça bien amusant, ça, très inspirant, ça s'amuse beaucoup, ça rit beaucoup, puis ça placote beaucoup. À un moment donné, on demande le silence. Parce que là, on va changer de rythme un peu. On va lire. Il y a un animateur, puis une narratrice, puis un Européen, personne qui joue le rôle de... Alors, on lit des textes, puis à un moment donné, l'Européen rentre dans la foule, puis donne la main à tout le monde, il arrive au pays, bien gentil, bien fin. On l'accueille. Mais un peu plus tard, il devient comme conquérant, dans le fond, parce que là, il demande plus de territoire. Donc, on enlève des couvertures. Il y a des gens qui meurent, qui doivent sortir. On arrache les objets des mains, parce que là, c'est fini, ça, le truc. Tu commerces avec le magasin général. Après ça, ben, il y a l'époque des pensionnats. Il y a l'époque de l'ouverture du chemin de fer dans l'Ouest. Il y a le 60s Coup, la rave des années 60. Bon, il y a plein d'événements comme ça qu'on fait vivre aux gens durant une heure. Au bout d'une heure, ils ont appris, la plupart des gens me disent qu'ils ont appris plus en une heure à l'école.
Plus en une heure avec toi d'exercice des couvertures que toute leur école, toute leur scolarisation.
Le secondaire. Parce ouais. que c'est un exercice qui est expérimentiel, expérientiel. C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur corps, ils ont des émotions. Se faire arracher la poupée d'un main, là, c'est ton enfant. Ils ouais. se sont attachés à leur poupée. Ils se sont même, moi, ça me surprend, ils se sont même eu le temps de s'attacher à leur petit canot en écorce que je voulais pour l'exercice. Ils défendent. Mais là, ils se rendent compte, c'est quoi se faire arracher? Ce qui nous appartient, se faire arracher ta culture. En dernier, finalement, il reste une couverture avec 5-6 personnes dessus qui ont réussi à passer à travers.
Ouais.
Et avec toutes les limites de droits qu'on leur donne.
Mm-hmm.
Et après ça, on s'assoit pour une heure de cercle de... Et les gens nous disent comment ils se sont sentis en tant qu'Autochtones. Ils peuvent poser des questions. Puis ensuite, on se dit ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour changer cet état de choses? Cette époque est révolue. On ne vit plus dans ces conditions-là. Maintenant, vous avez un pouvoir. Alors, comment vous allez l'exercer, votre pouvoir? Alors, moi, je leur dis, si c'est... Il y en a qui ne savent pas quoi faire. C'est correct. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je leur dis, si c'est juste partir d'ici, puis quand vous entendez quelqu'un dire un préjugé ou quelque chose qui n'est pas correct, vous pouvez juste dire, hey, moi, j'ai appris d'autres choses. Juste partager votre nouvelle information, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez nous inviter, on va le faire ailleurs aussi. C'est ça. Mais dans les écoles aussi, je vais rencontrer des gens, mais j'aime beaucoup, dans n'importe quel groupe, répondre aux questions des gens. Puis je leur dis, gênez-vous pas. Vous pouvez dire n'importe quoi, même si vous pensez que c'est dur. Je veux pour l'entendre, parce que ce que je veux, justement, c'est de rendre les choses claires, c'est de répondre à vos questions, à toutes vos ambiguïtés, vos faussetés, pour mettre ça de côté et qu'on passe à d'autres choses. Parce qu'on peut me demander n'importe quelle question, même si c'est très personnel, et pas répondre. Si je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Parce que je veux qu'on avance. Je veux consacrer le reste de ma vie à ça. Là. Je veux qu'on avance. Mais la langue aussi, vous savez, la langue, c'est un peuple. Si on vous obligeait à vous demain matin à parler chinois, parce que le pays était conquis par des Chinois, ça serait difficile pour vous autres, parce que vous ne perdez pas juste la capacité de vous exprimer pour que l'autre vous comprenne avec des mots. Vous perdez ce que vous avez à l'intérieur. T'sais, vous n'êtes plus un Français. Vous êtes obligé de devenir dans votre tête une pensée chinoise. Quand ta pensée est changée, c'est difficile. C'est très difficile.
Mm-hmm.
Alors, l'identité, elle tombe. T'es qui, toi? T'es un objet modelé parce qu'on veut en faire un autre avec. T'es même plus un sujet. T'es un objet. Alors, la langue, c'est l'identité. La langue, elle est en danger chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont perdue, même si on commence à la réenseigner dans les écoles. Mais il y a certaines écoles qui n'ont jamais arrêté. Moi, j'étais chez les CRI en 1992 et on enseignait jusqu'en troisième année parce que le gouvernement ne permettait pas la suite. C'était l'anglais ou le français. Vous voyez, c'est encore là une façon d'essayer de sauvegarder, de parler nos langues. On en parle de plus en plus sur nos communautés. Vous avez des communautés où la plupart des enfants vont parler autochtone parce que les aînés vont parler autochtone. Mais il y a des aînés qui ne parlent ni français ni anglais, qui parlent juste la langue. Alors, il faut sauver, c'est sûr, la langue. Puis aujourd'hui, c'est tellement facile. On a des cours sur Internet de toutes les langues que vous voulez. Parce que, une dernière chose par rapport à la langue, moi, je trouve que c'est une marque de respect que si vous vivez proche des Abénakis ou proche des Wendat ou proche des Galagiranga, d'apprendre à dire bonjour dans leur langue. C'est juste une marque de respect. Puis, vous savez, c'est pas si... Parce qu'il y a eu comment ça s'appelait, donc, des coureurs des bois. Les coureurs des bois qui ont appris la langue autochtone parce que c'était nécessaire pour leur travail.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, ça peut être nécessaire pour la rencontre. Tu sais, dire « kwe », pas trop compliqué. Puis « kwe », c'est dans toutes les langues, de toute façon. Toutes les langues autochtones, on utilise « kwe » ou « kwe kwe », c'est pas trop important. La salutation finale, moi, dans ma langue, ça va être plus « nyaut », je veux dire « au revoir ». D'autres langues, il y a « miigwech » aussi qui est « merci », là, qui est utilisé dans plusieurs langues autochtones. Dans la mienne, c'est Chemishkemetin. Vous savez, on parlait de vocabulaire tantôt, je trouve ça toujours intéressant de donner la signification. Chemishkemetin, ça ne veut pas dire merci, parce que le mot merci dans notre langue, on n'avait pas besoin. Chemishkemetin, ça veut dire j'apprécie tellement ce qu'on a vécu ensemble que je t'offrirai une outarde.
Oh, wow!
Oui, mais ça a une histoire derrière ça. Nos mots ont une histoire. Nos mots, c'est des contes, dans le fond, aussi. Mm. C'est une famille qui est dépourvue, qui n'a plus de nourriture, qui va aller voir une autre famille. Puis l'autre famille va dire, juste pour ma famille, mais pour 2 jours, on va partager avec toi. Puis si on meurt les deux familles dans les 2 jours, bien on meurt les familles dans les 2 jours. Bien, vous voyez le Chemishkemetin qui veut dire, j'apprécie tellement ton geste que quand je vais avoir ma chance, je vais t'offrir une outarde.
Oui.
Je vais t'aider à ton tour, mais c'est une image, ça, t'offrir une outarde, de dire, je vais te remettre la même chose, je vais t'aider.
Ce que j'aime dans ça aussi, c'est que ça nous ramène au moment présent, ça nous ramène, c'est en opposition avec la notion d'accumulation, d'individualisme et d'accumulation des sociétés plus européennes, nord-américaines. Ça, c'est, en ce moment, on a de la nourriture, partageons ce qu'on a. Et on verra ce qu'on va vivre ensemble demain ou après-demain, effectivement, ensemble. Ça fait que j'aime vraiment que ça nous ramène dans le moment présent. Il y a vraiment une belle sagesse derrière ça. Puis, tiens, je vais montrer un peu, je vais faire preuve un peu de curiosité moi-même, qui habite sur un territoire plus traditionnel, Abénaki. Bonjour, bonjour, ça serait quoi dans la langue Abénaki? Est-ce que tu le sais? Toi, je sais que c'est plus la langue Innu que tu connais.
Non, mais c'est quoi?
C'est quoi?
Tu dis quoi n'importe où, il n'y aura pas de problème.
Quoi, oui. Bonjour.
C'est pas international, mais c'est...
Et Niaout, ça serait au revoir en Innu, c'est ça?
Niaout.
OK, super. Hey, Marie-Émilie, ça fait quand même un bon petit moment qu'on se parle. J'apprécie tellement ce que tu apportes. Puis, tu sais, dans les dernières 5-10 minutes, ce que tu présentais, ce que je retiens, en tout cas, c'est vraiment la rencontre, la relation. Avoir de la curiosité, aller vers l'autre dans une attitude d'ouverture, c'est vraiment ce que j'entends.
Et de respect. L'humain, les animaux, les arbres, les poissons, c'est un cercle. Et le cercle brisé, ça va plus.
Ouais.
Mais avant de terminer, je sais pas si tu as d'autres choses, mais je voulais te donner absolument des organisations qui travaillent dans le même sens que toi. Peut-être que tu en connais. Ben, je sais que tu es déjà venu, Initiative et Changement, qu'on a commencé un projet cette année qui va se continuer l'année prochaine qui s'appelle Bâtir la confiance.
Mm-hmm.
Puis on s'est associé justement avec des groupes autochtones. Ensuite, puis on veut justement informer le plus de gens possible et faire des petits groupes tout pour bâtir la confiance entre les groupes. Il y a Unité Québec.
Mm-hmm.
C'est aussi, c'est nouveau. Là. Je travaille avec eux autres. Mais on travaille aussi avec Ben Abdallah, justement, de la Grande Mosquée, qui fait partie de notre groupe. Ensuite, ben, Alpha Belle Chasse, c'est évident qu'ils font un beau travail aussi pour accueillir les gens, rencontrer les gens. Il faut regarder autour de soi, puis s'unir, puis se renseigner, puis s'engager. Il faut s'engager.
Merci beaucoup, Marie-Émilie Lacroix. Miigwech.
Chemishkimetun. Nyaut.
Nyaut. Et merci d'avoir été la première invitée au podcast.
C'est un honneur, ça.
C'est un grand honneur pour moi et pour ceux qui vont écouter.
Et pour moi aussi.
Miigwech.
Hey.
Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à culturedempathie.org. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à culturedempathie@gmail.com. Il va y avoir des épisodes qui vont sortir assez régulièrement. Alors, on reste en lien. Merci, Nyaut, Miigwech. Bye.
Une forêt vivante, une forêt tonitruante, notre fibre, notre chair, et comme l'arbre, écorce. Laissons aller la fin de notre monde. Everybody say, hey!
So much beauty,
and it's so much
love, and so much love,
and it's so much love.
Let us share, peace and joy.
Let us share,
peace and joy.
Oh, let us share, peace and joy. Oh, let us share, peace and love. Let us share, our peace and joy. Let us share, yeah.